Ici, Axon Capital. Comprends le système, pas juste le graphique. Jesse Livermore a fait $1 milliard en une seule journée. Et il est mort, ruiné. La leçon, le talent ne suffit pas. La discipline est tout. Il y a des noms que tout trader finit par croiser. Jesse Livermore est l'un d'eux. Né en 1877 dans une ferme du Massachusetts, il commence à spéculer à 14 ans dans les bucket shops, ces officines où l'on pariait sur les mouvements de cours sans réellement acheter d'actions. À 16 ans, il a déjà gagné l'équivalent de plusieurs milliers de dollars de l'époque. Livermore ne lisait pas les bilans d'entreprise. Il ne s'intéressait pas aux dividendes. Il ne croyait pas à la valeur fondamentale. Ce qui l'intéressait, c'était une seule chose, la psychologie du marché, traduite dans le comportement des cours. Il avait développé une méthode intuitive avant que le terme suivi de tendance n'existe. Son principe, le marché te dit toujours quelque chose. Quand une action est censée monter et qu'elle ne monte pas, c'est un signal. Quand une action encaisse de mauvaises nouvelles et qu'elle tient, c'est un signal encore plus fort. Il appelait ça « observer le comportement du marché lui-même ». Le short légendaire de 1929. Le moment le plus célèbre de sa carrière se passe en 1929. Livermore avait observé ce que peu de gens voulaient voir. Une frénésie spéculative généralisée, des actions achetées massivement à crédit, des évaluations déconnectées de toute réalité économique. Il avait vu ce film avant, en 1907. Il avait déjà shorté le marché pendant le panique de 1907 et réalisé un gain extraordinaire. En 1929, il construit une position short massive contre le marché américain. Le 24 octobre, le jeudi noir, et les jours qui suivent, le marché s'effondre. Livermore encaisse environ $100 millions de profit, ce qui équivaut à plus $1 milliard aujourd'hui. À l'époque, c'est l'une des opérations spéculatives les plus lucratives de toute l'histoire des marchés financiers. Il est si riche et si célèbre que des rumeurs circulent. Certains l'accusent d'avoir lui-même provoqué le krach. C'est évidemment faux. Un seul trader, aussi talentueux soit-il, ne casse pas un marché entier. Mais ça dit quelque chose sur le personnage qu'il était devenu dans l'imaginaire collectif. L'anecdote, la fortune bâtie, perdue, rebâtie, reperdue. Ce qui rend l'histoire de Livermore si puissante, c'est qu'il a fait fortune et tout perdu plusieurs fois. En 1908, après ses succès des années précédentes, il écoute les conseils d'un soi-disant expert sur le coton et perd presque tout. Il se retrouve endetté, humilié, il remonte la pente en quelques années, puis reperdit à nouveau lors de la crise de 1915-1917. Après le coup de 1929, au sommet de sa gloire et de sa richesse, il aurait pu s'arrêter. Il ne l'a pas fait. Les années 1930 lui résistent. Il multiplie les erreurs, des positions trop grosses, un manque de discipline, une confiance excessive dans ses intuitions du moment, plutôt que dans sa méthode éprouvée. En 1934, il déclare faillite pour la troisième fois. Sa dette atteint plusieurs millions de dollars. Il passe les années suivantes à écrire ses mémoires, « Comment jouer et gagner en bourse », publié en 1940 sous le pseudonyme Edwin Lefebvre, qui reste à ce jour l'un des livres les plus lus de l'histoire du trading. Il y analyse ses propres erreurs avec une lucidité rare. En novembre 1940, Jesse Livermore se donne la mort dans un vestiaire de l'hôtel Sherry Netherland à New York. Il laisse une lettre qui commence par « Ma vie a été un échec ». C'est la phrase la plus paradoxale de toute l'histoire financière. L'homme, qui avait prédit et financièrement profité du plus grand krach du XXe siècle, se considérait lui-même comme un échec. Ce que son histoire dit vraiment sur le trading, l'erreur serait de résumer Livermore à un génie qui a eu de la chance. Ses intuitions sur le marché étaient réelles et souvent brillantes. Mais trois choses l'ont détruit. Et ces trois choses détruisent encore la majorité des traders aujourd'hui. Premièrement, il n'a jamais réussi à séparer sa méthode de son ego. Quand il gagnait, il pensait être invincible. Quand il perdait, il surcompensait avec des positions encore plus grosses pour se refaire. Ce mécanisme, augmenter la taille après une perte, est l'un des plus dangereux en trading. Deuxièmement, il écoutait parfois des tuyaux et des conseils extérieurs qui contredisaient sa propre analyse. À chaque fois que ça lui a coûté cher, c'était parce qu'il avait abandonné sa méthode pour suivre une intuition extérieure. Troisièmement, il n'avait pas de règles fixes de gestion du risque. Il savait lire le marché mieux que quiconque, mais il ne savait pas toujours quand s'arrêter. Livermore lui-même l'avait écrit. Ce n'est pas la pensée qui fait gagner de l'argent, c'est l'attente. Attendre le bon moment, puis agir, puis attendre encore. La discipline de ne pas trader quand les conditions ne sont pas réunies est peut-être la compétence la plus difficile à maîtriser et la plus décisive. Son histoire n'est pas une mise en garde contre le trading. C'est une mise en garde contre l'idée que le talent suffit. La méthode, la gestion du risque et la constance psychologique, voilà ce qui sépare ce qui dure de ce qui brille brièvement puis s'éteigne. Chez Axon Capital, la méthode macro, technique, mindset, place le mindset en dernier dans l'intitulé, mais en premier dans l'ordre de priorité. Parce que sans le bon cadre mental, la meilleure analyse du monde ne vaut rien. Jesse Livermore le savait, il n'a pas réussi à l'appliquer.